Sandrine, Nathanaël, c'est Positif Morning.
Et donc Franck Damour est notre invité toute cette heure-ci sur Phare FM à l'occasion de la semaine de la vie. Le but de cette semaine, retrouver le miraculeux de la vie dans toutes ses dimensions. Et on va parler de la dimension spirituelle, on va parler de plein d'autres choses aussi avec vous. Franck Damour, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en duplex avec nous et donc on a pas mal de choses à voir avec vous sur cette dimension spirituelle, Sandrine.
Oui, vous êtes essayiste et agrégé d'histoire. Et alors, on va entre autres parler du titre de votre livre « Heureux les mortels, car ils sont vivants ». Ça veut dire quoi cette phrase ?
C'est une phrase qui est un peu paradoxale, hein, parce qu'a priori, « Heureux les mortels », c'est un petit peu étrange. Hein. Bien sûr, c'est une allusion à des passages dans les évangiles, hein, qui sont aussi des phrases paradoxales, mais tout simplement parce que la mort n'est pas une bonne nouvelle en soi. Par contre, le fait que nous soyons mortels, notre mortalité, elle, est une bonne nouvelle. Mmh. Elle est une bonne nouvelle parce que si on n'a pas conscience de cette mortalité, si on ne l'intègre pas dans chacun de nos gestes, dans chacune de nos relations, eh ben, en fait, nous sommes non pas des vivants, mais déjà des morts. Et en fait, peut-être même des morts vivants, si je me permets cette expression. Alors que voilà, c'est un titre volontairement paradoxal parce que la vie est paradoxale.
Ouais, on en reparlera de ce livre-là. Et on verra avec vous durant cette heure pourquoi l'homme aspire à l'immortalité par la technologie. On parle de transhumanisme notamment. Qu'est-ce qu'on entend par immortalité ? Apparemment, ça serait différent d'éternité. On verra pourquoi c'est une bonne nouvelle d'être mortel et encore plein d'autres sujets.
Phare FM.
Phare FM.
Phare FM. Phare FM. La radio autrement.
Notre semaine consacrée à la vie avec un invité qui est Franck Damour aujourd'hui, qui est essayiste et agrégé d'histoire. Heureux les mortels car ils sont vivants, c'est le nom de l'un de vos livres. On aspire pourtant à l'immortalité et on y aspire par la technologie, Franck. Alors on peut peut-être dire qu'est-ce qu'on entend par immortalité ?
En fait, depuis que l'homme développe des techniques, il le fait pour vivre plus longtemps, pour survivre, pour ne pas être dévoré par la mort. Et donc, en soi, la technologie a toujours été plus ou moins un élément de lutte contre la mort. Par contre, là, la nouveauté, c'est que depuis peut-être 15-20 ans, certains industriels, certains scientifiques entendent développer des technologies non pas pour nous aider à vivre seulement plus longtemps, mais pour, disent-ils, vaincre la mort, tuer la mort. Ouais. Hein, ils annoncent la mort, de la vieillesse. Et il me semble donc que c'est pas du tout la même perspective et que ça change beaucoup de choses sur la technologie elle-même.
Mmh. Donc ça veut dire que, qu'est-ce qu'on entend exactement par immortalité ? C'est différent, semble-t-il, vous nous disiez en antenne, de l'immortalité.
Oui, alors l'immortalité, ça serait le fait de ne plus mourir. Et donc, l'éternité, c'est autre chose. Ce n'est pas une question de quantité. Il ne s'agit pas de rajouter des années à des années de façon indéfinie, ce que les philosophes appellent un mauvais infini. Mais c'est une question d'état, une question d'être, de qualité d'être. Hein, et donc, l'homme est né. Voilà, l'homme naît, il a une naissance, une origine, il ne ressemble pas à ces dieux auxquels croyaient les anciens, qui, eux, sont immortels par nature parce qu'ils ne sont jamais nés, il n'y a pas eu de naissance des dieux. Et du fait qu'il y ait cette naissance, eh ben, l'homme est en dehors de ce régime d'immortalité. Par contre, il peut aspirer à l'éternité, il peut aspirer à un au-delà, à un dépassement, mais encore une fois, c'est une question de qualité, non pas de quantité.
Alors, ce que l'on voit dans les films de fiction, finalement, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que l'homme augmenté existe déjà, il va exister de plus en plus. On va avoir des entreprises qui vont nous vendre du rêve, à savoir vivre pas plus longtemps, mais vivre une certaine immortalité.
Oui, alors je ne sais pas si ça va arriver, je suis peut-être un peu sceptique sur le fait que ces projets soient réalisables. Par contre, c'est sûr qu'ils vont nous vendre du rêve et c'est certain que c'est un argument très fort pour attirer des investissements, pour mobiliser des moyens publics aussi, hein, parce que ces entreprises comme Google, par exemple, qui investissent dans ces projets, se nourrissent de fonds publics très importants, hein, contrairement à ce qu'elles peuvent dire. Et donc, oui, il y a un véritable enjeu en termes de communication, mais aussi d'idéologie. Parce que Larry Page, par exemple, et Sergey Brin, qui sont les deux fondateurs de Google, qui sont aujourd'hui porteurs de cette conception immortaliste, ont une vision de l'homme finalement qui met l'accent non pas sur la fragilité de l'homme, mais plutôt sur sa toute-puissance. Mmh. Et évidemment, on voit bien que là, on sort simplement du champ économique ou du champ simplement technologique, mais on bascule dans la politique et c'est tout à fait autre chose.
Alors, faites-nous rêver ou faites-nous peur. Qu'est-ce que proposent quand même des sociétés comme Google pour notre futur ?
Alors, par exemple, ils ont fondé une entreprise qui s'appelle Calico, qui est une entreprise qui est en train de travailler sur les origines de la vieillesse, pour supprimer le vieillissement, pour permettre une jeunesse éternelle. Bon, concrètement, Calico a surtout développé un médicament à base de testostérone, qui sont vendus avec une efficacité d'ailleurs, bon, ma foi, peu évidente, hein. Et donc on est très loin de leurs promesses. Mais bon, voilà, c'est un petit peu, il s'agit de développer des biotechnologies qui nous permettrait, voilà, de ne plus avoir à subir ou à supporter les difficultés liées à la vieillesse. Mmh. Alors, il ne s'agit pas seulement du bien vieillir, comme on dit parfois aujourd'hui, hein. Il s'agit véritablement d'une forme de quête d'une jeunesse éternelle, mais d'une jeunesse de l'homme, on va dire, au début de sa vie d'adulte. Pas du tout le fait de retrouver un esprit d'enfance. Mmh. Hein. C'est plutôt le cadre supérieur qui aspire à rester cadre supérieur toute sa vie. Hein. C'est plutôt dans cet esprit-là que c'est pensé. Donc ça peut être ça, ça peut être augmenter nos capacités intellectuelles en nous connectant, en nous greffant par exemple sur Internet. C'est ce que propose Elon Musk par exemple, le PDG de Tesla, qui a créé il y a quelques mois maintenant une entreprise visant à faire en sorte que le cerveau humain puisse être connecté à des intelligences artificielles pour que lorsque ces intelligences artificielles franchiront un cap, leur cerveau humain puisse suivre. Voilà, donc ça peut être le genre de projet d'augmentation qui nous propose.
Eh bien, ça peut faire rêver, ça peut faire peur. En tout cas, vous pouvez réagir. Plus 33 652 300 342.
Amour est notre invité, il est essayiste et agrégé d'histoire. Toute cette semaine sur Phare FM est consacrée à la vie et à retrouver le miraculeux de notre vie dans toutes ses dimensions. On parlait tout à l'heure, on abordait un petit peu le transhumanisme, l'homme augmenté. Pour vous, c'est un leurre, c'est une quête limitée et vous le dites d'ailleurs dans l'un de vos ouvrages, être mortel, ça deviendrait une bonne nouvelle. Franck, vous voulez développer là-dessus ?
Oui, parce que finalement, quand on écoute les transhumanistes, on peut être qu'être séduit par leur proposition. Après tout, c'est vrai que vieillir, c'est pas une chose très agréable, être malade non plus, évidemment. Alors pourquoi ne pas aspirer à cela ? Pourquoi ne pas aspirer à être plus puissant, plus fort, plus jeune longtemps et plus longtemps ? Hein, c'est vrai que ça pourrait être assez séduisant. Et pourtant, en fait, cette proposition nous fait redécouvrir un peu en miroir, tout l'intérêt qu'il y a à savoir que nous sommes mortels. Comme je le disais tout à l'heure, le fait de vouloir lutter contre la mort, enfin, de vouloir éviter de mourir par la médecine, etc., et par la technologie, ce n'est pas tout à fait la même chose que de vouloir prendre le contrôle de tout. Car au fond, c'est ce qu'il y a dans ce projet, il s'agit de vouloir contrôler sa mort comme on contrôlerait, je ne sais pas, la production, la fabrication, on gérait sa vie comme avec un agenda électronique. L'homme mortel, lui, est un homme qui est au contraire ouvert, parce qu'il sait qu'il est mortel, il sait qu'il a besoin des autres, il sait qu'il ne s'est pas fabriqué tout seul, il sait qu'il n'est pas un objet comme un autre, qu'il est justement un sujet. Et c'est cette ouverture qui est une chance, c'est cette ouverture qui est la source d'ailleurs de la créativité, donc aussi des technologies. Parce que c'est un peu le paradoxe de ce projet technologique, c'est de vouloir supprimer ce qui est à l'origine de l'invention et de l'inventivité technologique. C'est pour ça que ça me paraît une quête vaine et même absurde sur le plan proprement économique d'ailleurs. Parce que si on allait jusqu'à atteindre ces objectifs, il n'y aurait plus aucune inventivité, plus aucune raison de vouloir créer des choses nouvelles.
Autrement. Franck Damour est toujours notre invité sur Phare FM. Il est en duplex avec nous. Il est essayiste et agrégé d'histoire. C'est la semaine de la vie. Ça continue sur Phare FM. C'est jusqu'à vendredi. Posez toutes vos questions. N'hésitez pas, on redonne le numéro de téléphone.
Oui, avec plaisir. +33 652 300 342. C'est vrai que ces questions de transhumanisme, d'homme augmenté, ça peut ou pas faire rêver. Donc n'hésitez pas, vous pouvez réagir. On va voir un axe différent ce matin, Sandrine, tout de suite.
Oui, tout à fait. Alors, être mortel, c'est une bonne nouvelle, ce sera une bonne nouvelle. Et c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, Franck. Ça a aussi des conséquences au niveau collectif. Être mortel, ça nous rapproche, selon vous?
Ben oui, tout à fait, parce que pour quelle raison les hommes vivent ensemble? Pourquoi sont-ils un animal social, hein? Ben, tout simplement parce que c'est certainement l'animal qui est le... Nous sommes l'animal qui, tout seul, ne peut absolument pas survivre. Nous avons une fragilité absolument considérable, aucun moyen particulier sur le plan physiologique pour survivre. Nous avons évidemment besoin des autres. Et donc le socle de toute société humaine, c'est le fait que nous sommes fragiles et que nous sommes tous mortels. C'est ce qui nous rend même égaux. C'est le... même, on va dire qu'il faudrait peut-être même commencer les droits de l'homme en disant les hommes sont égaux parce qu'ils sont mortels. Hein. Au fond, il n'y a rien de plus universel que cela et donc rien de plus fort pour nous rassembler.
Alors comment ça se voit exactement dans l'organisation de la société, tout cela, Franck?
Ben, en fait, qu'est-ce qui fait que nous sommes en société? Pourquoi est-ce qu'on crée des institutions, comme l'école, par exemple, comme les hôpitaux, comme une mairie, comme un tribunal pour juger? Ben, tout simplement parce que nous avons besoin de ces institutions pour nous lier et pour, on va dire, combler cette faille que chaque individu aurait, qui est celui d'être fragile, d'être mortel. On ne peut pas vivre sans les autres, véritablement. Ces institutions, elles ne sont pas là par rapport à un projet de puissance. Et dans l'histoire, chaque fois que des sociétés ou des hommes ont voulu faire de ces institutions un instrument de puissance, chaque fois qu'elles ont créé des empires pour dominer, ces empires se sont effondrés. Les institutions qui durent, je prends simplement l'idée de l'hôpital, par exemple. Hein, elle apparaît comme ça il y a à peu près un peu plus de 2000 ans maintenant, et c'est une institution universelle, acceptant toutes les cultures, parce que, évidemment, elle est située, elle est fondée, son socle, c'est le fait que ce qui nous rend frères, c'est le fait que nous soyons tous mortels, et que nous avons à vivre ensemble avec cette mortalité. Et je préfère la même chose par rapport à d'autres institutions artistiques. Qu'est-ce qui nous pousse à écouter de la musique, hein? Qu'est-ce qui nous pousse à inventer de la musique, à en jouer? Sinon, le fait qu'il y ait une fragilité jusqu'à présent, hein, sauf erreur de ma part, jamais une machine n'a eu besoin de faire de l'art.
Oui,
hein? Oui, en effet.
Donc, il y a vraiment... Là, au fond, c'est quelque chose qui est tellement évident qu'on ne le voyait pas. Et s'il faut remercier les transhumanistes, c'est bien de nous forcer à dire cette chose que l'on ne voit pas.
Sandrine, Nathanaël, c'est Positive Morning.
Franck Damour est notre invité jusqu'à 10h sur Phare FM à l'occasion de cette très belle semaine de la vie où on essaye avec des spécialistes, un spécialiste chaque jour différent, de retrouver le miraculeux présent dans notre vie, dont on n'a plus idée, dont on n'a peut-être pas du tout idée d'ailleurs. Vous restez avec nous sur Phare FM, vous posez vos questions.
+33 652 300 342. Sandrine, on aborde aujourd'hui la dimension spirituelle. Donc elle dépasse la mort, bien entendu. Hein. Un être fini qui aspire à l'infini. C'est un peu la thématique que l'on voit ce matin avec notre invité Franck Damour, Sandrine.
Oui, alors on voyait tout à l'heure à quel point être mortel nous rapproche au niveau collectif, qu'on a besoin les uns des autres. C'est comme ça qu'une société fonctionne, qu'elle doit fonctionner. Et à l'échelle individuelle aussi, notre mortalité a une conséquence, Franck.
Oui, tout à fait, parce que alors ça a l'air d'être un peu une lapalissade, mais si nous sommes mortels, si nous allons mourir un jour, c'est parce que nous sommes nés. Et cette naissance, elle ne vient pas de nous. Nous n'avons pas décidé, nous ne sommes pas fabriqués nous-mêmes. L'homme n'est pas un objet. Et la naissance est un miracle en soi, au sens propre du terme. Il y a une part d'énigme, de mystère sur le phénomène de la naissance. Et ça aussi, c'est quelque chose que nous avons tous en commun. Alors cela semble, je dirais, évident. Et au fond, quand on regarde un peu les contes ou les mythologies des anciennes traditions, ils nous invitaient à méditer ce moment-là. Et peut-être que dans notre modernité, nous sommes tellement obsédés par le souci de fabriquer et de contrôler que cette chose qui échappe à toute fabrication et à tout contrôle, eh ben justement, nous l'avons plus prise en considération. Or, elle est vraiment essentielle. Elle nous unit. Par contre, elle met en question, elle laisse en suspens un peu la question, évidemment, de pourquoi cette vie qui surgit là, comme cela, hein, cette question donc du sens.
Mais alors justement, est-ce qu'une vie sans mortalité, elle aurait un sens ?
Une vie sans fin aurait-elle un sens ? Ça serait ce qu'on appelle parfois un mauvais infini. On croit que c'est un infini, alors qu'en fait, il y a justement une absence de fin, alors, si je me permets ce jeu de mots, c'est un véritable infini peut-être. C'est-à-dire que c'est une vie qui n'a pas de fin est une vie qu'on ne peut pas orienter. C'est une vie qui a plus en fait dans la reproduction incessante. Voilà, on se lève, on se nourrit, et puis on se relève, on se nourrit, sans croissance. Pour qu'il y ait une croissance, il faut qu'il y ait une fragilité. Et sans fragilité, on ne peut pas découvrir et faire l'expérience de la croissance. C'est quelque chose qui est absolument fondamental. Et on ne peut pas sortir de cette nature énigmatique de l'être humain. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Et c'est ce sur quoi se trompent les transhumanistes, et pas seulement eux, mais beaucoup de personnes. On peut avoir, on va dire, la croissance sans avoir la finalité. Ça se voit sur le plan économique aujourd'hui, on s'en rend bien compte. On a cru que la croissance pouvait être infinie. Et ben non, la croissance n'est pas infinie. La croissance, elle n'existe et elle n'est vraie que si elle a ce socle-là de la fragilité de tout un chacun qui est le fait que nous sommes nés, nous avons un père, une mère, et que nous allons vers une fin aussi, qui est cette fin, c'est la mort que nous avons en commun.
On parle de la vie tout au long de la semaine, Sandrine.
Oui, tout à fait. Vous réagissez au plus 33 652 300 342 cette semaine consacrée à la vie et dans le but de retrouver le miraculeux dans nos vies avec Franck Damour aujourd'hui qui est notre invité. Il est essayiste et agrégé d'histoire. Alors, on parle de notre mortalité, cette mortalité qui est finalement bonne pour nous, qui est utile. Vous nous parliez en début d'interview de fragilité, d'une fragilité que nous avons commune, qui est notre mortalité. Est-ce que vous voulez développer justement sur cette fragilité, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
La fragilité, c'est le fait que, en fait, c'est la source de notre émerveillement. Au fond, lorsqu'on s'émerveille devant quelque chose, un visage, quelque chose d'imprévu, c'est le moment sans doute où chacun peut en faire l'expérience. Dans nos vies, nous nous sentons le plus ouvert possible, le plus accompli possible. Et ces moments-là sont liés intimement à cette fragilité. Et c'est vrai que c'est quelque chose cette fragilité de l'être. C'est quelque chose qui est un petit peu comme une flamme qui vacille. À la fois, elle réchauffe, elle éclaire, et on sent qu'elle peut disparaître à tout instant. Et il y a quelque chose d'assez inexplicable, une expérience du mystère, qui est véritablement le cœur de notre créativité. Au fond, cette fragilité, c'est la source de la créativité. Pour moi, la fragilité, c'est la muse. Vous savez, la muse des poètes, nous avons tous besoin d'une muse pour vivre et pour être attentif aux autres et attentif à soi-même. Et cette muse-là, c'est la fragilité.
Alors, ce que vous dites là, cette notion de fragilité, c'est pas du tout ce qu'on nous vend, que ça soit à l'école. Moi, j'ai quelques souvenirs de mes études, c'est pas du tout ce qu'on nous vend. J'imagine
c'est
que Nathanaël,
tu
dois être d'accord avec moi, qui plus est en école de communication publicité. C'est pas ce qu'on nous vend, même dans la publicité de manière générale. Est-ce qu'on serait pas meilleur, justement, si on n'avait plus cette fragilité, si on arrivait à la supprimer, est-ce qu'on serait pas plus performant, Franck ?
Oui, je crois qu'il suffit de regarder comment évolue le monde professionnel pour se rendre compte qu'il est fondé sur plutôt une culture du pouvoir, de la domination, et que les entreprises finalement qui se portent bien, celles où les personnes aiment aller ou aiment travailler, les entreprises qui arrivent à, on va dire, produire, à être fécondes au sens propre du terme, à produire une belle économie, sont des entreprises où il y a de l'attention des uns aux autres. Entre les différents peut-être niveaux de la hiérarchie, entre les personnes qui sont au même niveau, et parce qu'il y a ce sentiment-là que finalement nous sommes tous embarqués dans la même histoire. Je crois qu'il y a en ce moment beaucoup de personnes qui souffrent de burn-out par exemple, ou de dépression. C'est véritablement parce que nous avons un peu perdu cette culture de la fragilité qui s'est réfugiée un peu encore dans les familles, mais pas toujours. Et vous citiez le cas de l'école, c'est vrai, le droit à l'erreur, le droit c'est quelque chose qui doit être au cœur du processus éducatif et qui ne l'est sans doute pas assez, parce qu'il y a ce souci de performance. En fait, c'est une fausse vision de la performance. La performance, on croit que c'est véritablement la personne la plus forte, alors qu'en fait, c'est pas vraiment ça, c'est la personne la plus féconde.
Dernière ligne droite, Sandrine, dans moins d'un quart d'heure, on rendra l'antenne avec notre invité aujourd'hui qui est Franck Damour. On parle de plusieurs choses, notamment de transhumanisme. Alors, ces hommes augmentés. Franck, une question pour vous. Les bienfaits des technologies, notamment lutte contre le vieillissement, c'est plutôt une bonne chose. Les auditeurs pourraient ne pas comprendre pourquoi, finalement, ce serait, en vous écoutant, une mauvaise chose que de développer ces technologies.
Oui, oui, bien sûr, ces technologies qui visent à nous aider à vivre et à vieillir, en soi, sont bonnes, sont positives. Mais la question, c'est qu'une technologie ne se développe pas comme ça. Elle se développe par rapport à un projet. Et si le projet, c'est de nous rendre plus puissants, si le projet, c'est de nous aider à avoir plus de contrôle sur notre vie, et non pas de nous rendre plus attentifs les uns les autres, et non pas de nous aider à grandir, ça ne sera pas la même technologie. Oui. Il suffit de regarder comment fonctionnent les outils de communication, de télécommunication que nous avons. Ils ne sont pas tous faits justement pour faciliter la communication. Ça se saurait. Si un téléphone portable avait amélioré la communication entre les hommes, il n'y aurait plus de guerre.
C'est vrai.
Alors, depuis qu'il y a des téléphones portables, je ne crois pas, à ma connaissance en tout cas, que les conflits aient cessé. Donc, c'est que véritablement, le projet dans lequel ces technologies s'inscrivent est absolument essentiel. Et quand ce projet, c'est celui de nous rendre comme des super-héros surpuissants, eh bien, à ce moment-là, c'est une grave erreur. Je prends juste un exemple, si vous permettez.
Allez-y.
Récemment, j'ai rencontré des roboticiens qui travaillaient sur deux projets concurrents, un projet pour équiper des personnes d'une prothèse et des personnes qui sont en nombre finalement assez limité pour une prothèse dont l'usage serait plutôt d'améliorer les performances au travail, pour améliorer la productivité. Et l'autre projet était celui de mettre au point un déambulateur automatisé pour aider les personnes qui ont du mal à se déplacer avec une machine qui serait attentive à leurs besoins, qui ne ferait pas à leur place, mais qui accompagnerait leurs gestes pour éviter qu'elles perdent le plus possible d'autonomie. Eh bien, le premier projet a trouvé assez facilement des financements, le second, alors que le nombre de personnes concernées, et puis parce que la vision de la technologie plus empathique ne correspond pas à une certaine vision de l'homme qui malheureusement domine beaucoup dans l'économie, celui-ci peine encore à trouver des financements.
Toute dernière ligne droite donc de la journée avec Franck Damour pour cette semaine de la vie, semaine consacrée à retrouver le miraculeux de la vie dans toutes ses dimensions. Franck, vous êtes donc notre invité. On a parlé avec vous de mortalité, on a parlé aussi de fragilité, on a parlé de plusieurs choses finalement que je préfère vous laisser résumer, vous allez le faire bien mieux que moi. Vous voulez nous redire, peut-être nous brosser finalement ce qu'on a balayé avec vous durant cette interview d'une heure?
Écoutez, il me semble qu'on nous promet un salut par les technologies. On nous promet des merveilles grâce aux technologies qui apporteraient des solutions à tous nos problèmes. Et en fait, il ne s'agit pas bien sûr de rejeter ces technologies, mais de comprendre que le problème n'est pas celui d'une révolution technologique. C'est un leurre de croire qu'il suffit d'inventer quelques nouvelles systèmes pour que les choses s'arrangent ou s'améliorent, mais d'une révolution politique. Véritablement, il s'agit de recréer ensemble une culture de la fragilité, une culture de la mortalité. Non pas un culte de la mort, mais une culture des mortels, c'est-à-dire le fait que cette mortalité, qui est le fondement de ce qui nous fait frères, et véritablement doit être au cœur, doit être l'horizon dans lequel nous construisons tout ce que nous avons construit ensemble, nos institutions. Et il me semble que là, véritablement, il y a moyen de dire que la vie est une chose assez miraculeuse. Créer des institutions qui permettent de garder ce regard émerveillé sur la fragilité qui est le socle de notre vie.
Merci beaucoup Franck Damour. On rappelle que vous avez écrit plusieurs livres, dont celui-ci qui s'intitule « Heureux les mortels car ils sont vivants » aux éditions Krollevour et « La tentation transhumaniste » aux éditions Salvator. Merci d'avoir été notre invité ce matin.
Merci Franck.
Merci à vous.